13h07 ce samedi après-midi sur France Bleu Brésil. Soyez les bienvenus dans la deuxième partie de Brésil au pluriel jusqu'à 18h. Nous sommes ensemble avec plein de sujets. On parlera de poésie, on parlera de littérature, de poésie avec la semaine de la parole poétique. On en parlera avec trois protagonistes, Nikos Landis, Louis Bartholom, Bruno Jeunès, qui nous parleront de cette semaine de la parole poétique qui commence dans quelques jours en pays de Quimperlé. On s'intéressera également à La Dame de Rosavel. C'est ainsi que s'appelle le dernier roman en date sorti chez Calman Levy il y a à peine quelques jours de Joël Reganès, qui sera notre invité tout à l'heure à partir de 17h. On ira faire un petit tour, petit coup de fil comme ça vite fait, parce qu'il se passe un truc ce soir, un spectacle où sont réunis sur la même scène à l'Océanis de Plumeur dans le cadre des You, sur la même scène disais-je, Gilles Servin et Lucien Gouron. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous préparer? Je sais qu'ils sont en répète en ce moment, en répétition devrais-je dire. En ce moment, on leur passera un petit coup de fil pour savoir ce qui se trame et ce qui va donc se passer. Mais auparavant, on s'intéresse à un livre qui est sorti aux éditions Locus Solus, qui s'appelle Une mode à croquer, Bruno Le Floch et son pays Bigoudin. C'est notre premier sujet.
16h-18h, Braise au pluriel, Michel Pagès.
De ce livre, Une mode à croquer, il est question dès maintenant avec les deux auteurs. Il y a Armel Lemineur, bonjour.
Bonjour.
Et puis également Briec Allez Le Gall, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes réunis tous les deux pour parler de Bruno Le Floch. On va dire, est-ce que j'exagère quand je vous dis Briec en tant qu'admirateur du talent de ce monsieur qui nous a quittés trop tôt. Et puis Armel Lemineur, la femme de Bruno Le Floch justement. Vous êtes réunis tous les deux pour évoquer un point précis de son parcours artistique.
C'est une belle aventure, c'est une très belle aventure. C'est vrai que moi, les hasards de mon métier de journaliste spécialisé en bande dessinée m'ont amené en 2004 à connaître Bruno, et très rapidement une amitié s'est faite de lui à moi, de moi à lui, et mais également avec Armel. Et la disparition subite de Bruno en novembre 2012 nous a amené bien sûr tout de suite à réfléchir à comment pérenniser son œuvre. Et donc on a eu l'idée de créer une association, les Amis de Bruno Le Floch, créer un site internet qui s'appelle aubordumonde.org, du nom de son premier album. Et à partir de ça, on a été sollicité pour faire des expositions, pour faire des événements, pour reproduire certains de ses visuels. Et à l'invitation de Florent Patron, qu'on connaît bien en Bretagne, grand éditeur de Bretagne, qui a créé sa société d'édition Locus Solus il y a un peu plus d'un an, maintenant un an et demi quasiment. Et il nous a fait une proposition de... Il avait découvert en travaillant avec les gens, les responsables du musée Bigoudin de Pont-l'Abbé, que Bruno avait fait beaucoup de travaux pour eux. Alors nous, on avait connaissance d'une certaine partie des choses qu'il avait pu faire. Il avait notamment fait des affiches pour des expositions, mais également des éléments de scénographie dans les collections permanentes du musée. Mais il avait également fait des personnages, quatre hommes, trois femmes, en costume bigoudin à différentes époques, avec toute une évolution. Et à partir de là, Florent est venu vers Armel Lemineur pour lui demander si elle acceptait qu'il puisse en faire quelque chose. Et puis il a tout de suite pensé à moi, parce que je pense savoir bien connaître l'œuvre de Bruno, pour faire une petite préface. Et cette préface finalement est devenue un livre.
Donc c'était une trop longue préface, donc du coup c'est devenu un livre.
Mais c'est vrai que quand Florent a peu à peu découvert la matière qu'il y avait, il n'imaginait pas que c'était un véritable iceberg. Et on a la chance extraordinaire qu'Armel nous a ouvert l'atelier de Bruno.
Alors Armel Lemineur, justement, vous êtes là et vous êtes concerné forcément au premier chef. Vous avez partagé la vie de Bruno Le Floch. Là, on évoque son pays bigoudin, mais comment le ressentait-il? Comment vous aviez-vous une idée de la manière dont il le ressentait? Il a toujours, avant de se mettre à la bande dessinée, il a toujours été passionné par ce pays, par son pays.
Bruno se nourrissait de la force et de la sincérité des habitants du pays bigoudin. Je voudrais un petit peu revenir sur la genèse de la collaboration entre Bruno et le musée bigoudin. En fait, le point de départ, c'est la volonté de Marie Prigent, conservatrice du musée bigoudin, de dépoussiérer un peu l'image un peu vétuste et un peu vieillotte de ce musée bigoudin. Et elle a donc demandé en 2008 à Bruno de lui faire deux affiches qui présentaient les deux expositions temporaires de 2008. De ces affiches, il y a eu plusieurs... elles ont été déclinées sur plusieurs supports. La billetterie, des cartes postales. Et cette collaboration s'est poursuivie également en 2009. Puisque, comme disait Briec, Bruno a participé à des éléments de scénographie que donc Marie-Prigent lui a demandé d'exécuter dans le cadre d'une exposition qui s'appelait « De la terre battue au formica ». C'est d'ailleurs une exposition qui est toujours en place au musée Bigoudin, qui est toujours visible, et on peut donc toujours admirer, entre guillemets, les personnages en pied que Bruno avait dessiné à cette occasion-là.
Alors, il se passionnait effectivement pour le pays Bigoudin, pour son pays Bigoudin, même s'il pouvait aussi lui faire des infidélités, puisque ça n'est pas le seul territoire qui a été dessiné par Bruno Le Floch. En revanche, effectivement, en quantité, il semble qu'il était vraiment passionné, parce qu'il a passé... Le travail qu'il a fourni signifie des heures, que dis-je, des semaines, des mois de travail sur cet élément qu'est le pays Bigoudin.
C'est une culture sur laquelle il ne travaillait pas. En fait, encore une fois, il était fait. Le sang Bigoudin coulait dans ses veines. Et c'est vraiment pas... le travail, je pense pas que ce soit un qualificatif qui lui convienne. Il exprimait simplement ce qu'il ressentait au plus profond de lui. Et c'est vrai que ce sont des tempéraments, des caractères qui l'inspirait énormément et dont il se sentait très très proche.
Oui, ça n'est pas uniquement l'esthétique, parce qu'on évoque le costume d'ailleurs sur le livre, hein, la couverture du livre représente un costume féminin Bigoudin, c'est pas seulement l'esthétique, c'est autre chose de plus profond en fait.
Alors, force est de constater que le costume Bigoudin est quand même d'une richesse inouïe. Bruno avait cette facilité et ce don de donner vie, de faire en sorte que ces costumes soient en mouvement. Peut-être le vent et la tempête qui sont apparemment omniprésents chez nous l'inspiraient, mais c'est vrai qu'il y avait chez lui ce sens du mouvement. Si j'osais, je le rapprocherais de Jean-Julien Lemordant, qui était un peintre qu'il aimait et qu'il respectait énormément. C'est vrai que tout dans le costume, dans sa richesse, dans les habitants du pays Bigoudin, tout concourt à ce que... voilà, c'était vraiment quelque chose que Bruno ressentait. C'était en lui. Et je pense que... Bon, le maître mot, c'est l'amour qu'il avait pour ces gens, pour, encore une fois, ces caractères trempés, ces costumes d'une beauté phénoménale. Et il avait vraiment tout compris.
Et il donnait une énorme jeunesse, parce qu'il a dessiné ses costumes, sont portés par de charmantes et fort jolies jeunes femmes. Il est tout neuf, il est tout frais, ce costume Bigoudin, tel qu'il est dessiné.
Ah, mais il est totalement vivant. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a su ressusciter une époque qui est pas si lointaine, parce que certains de ses récits, si on regarde au bord du monde, c'est entre fin 19e et début du 20e siècle. Son très grand succès, Trois éclats blancs, se passe dans les années 1910. Et on y est complètement. Et puis évidemment, la Bigoudin Godini, entre guillemets, de Bruno Le Floch est incarné même charnellement par Perdri, son héroïne, qu'on retrouve dans beaucoup de dessins, qu'on retrouve notamment dans notre ouvrage Une mode à croquer, où Perdri était vraiment l'héroïne de papier, j'oserais dire l'amoureuse de papier de Bruno, et elle est d'une gaieté incroyable, et c'est vrai qu'elle virevolte, on a l'impression qu'elle vole au-dessus de la terre ou du sable sur différents dessins. Et on a eu, voilà, on présente dans ce livre pas mal de croquis, également des dessins inédits. C'est vrai que Bruno affectionnait beaucoup sa jolie perdrix. Alors pourquoi perdrix? Parce que c'est son surnom, cette demoiselle. On ne connaît pas sa véritable identité.
Ça a un rapport avec l'Octudie, par exemple?
Eh ben, absolument, parce que Bruno, certes, est né à Pont-l'Abbé, mais a grandi à l'Octudie. Et les perdrix, vous savez, c'est cette tourelle des phares et balises qui ponctuent la rivière, absolument noire et blanche, à damier, que Bruno d'ailleurs a dessiné.
Voilà, donc on sait maintenant pourquoi son héroïne se nomme perdrix. On continue à parler de Bruno Le Floch et notamment de ce livre Une odeur croquée dans quelques toutes petites minutes. Ce samedi après-midi sur France Bleu Brésil, c'est Brésil au pluriel et c'est de Bruno Le Floch qu'il est question.
16h-18h, Brésil au pluriel.
À l'occasion bien sûr de la sortie de ce livre Une mode à croquer, Bruno Le Floch et son pays bigoudin, qui est sorti récemment aux éditions Locus Solus. Auparavant, il y a un certain nombre de bandes dessinées. Je pense, Briec, qu'on va en parler, Briec étant spécialiste de la bande dessinée, de l'histoire de la bande dessinée, mais Armel Le Mineur, en fait, il a commencé relativement tard, Bruno Le Floch, la bande dessinée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avant?
Bonne question.
Merci de l'avoir posée.
pendant plus de 20 ans, Bruno a été storyboarder dans le monde du dessin animé. Le storyboarder, en fait, c'est la mise en scène. C'est l'étape, c'est la personne qui fait que du script, on passe à l'image. Donc Bruno a travaillé sur de nombreuses séries télévisées, les Tortues Ninja, Clémentine, après...
les adaptations des bandes dessinées, le Marsupilami.
Oui, Marsupilami, voilà. Il a travaillé en Angleterre, il a travaillé en Pologne. Il a travaillé en Irlande et il a fini par être storyboarder sur un long métrage de Jean-François Laguioni qui s'appelle L'île de Blackmore. Mais pendant cette vingtaine d'années, au fur et à mesure que le temps passait, c'est vrai que les scénarios s'essoufflaient un petit peu. Et Bruno en est arrivé au constat que... après avoir prêté sa plume aux histoires des autres, il était peut-être temps pour lui maintenant d'illustrer ses propres histoires. Et effectivement, il avait beaucoup de choses à dire et je pense que voilà, cette arrivée dans le monde de la bande dessinée. D'ailleurs, il y a quelque chose d'un petit peu cocasse, puisqu'il a quand même eu le prix Goscinny en 2004, et le prix Goscinny récompense le meilleur jeune scénariste. Son prix lui a donc été remis sur la scène d'Angoulême, et effectivement, en tant que jeune scénariste, Bruno ne pouvait pas s'empêcher d'esquisser un sourire, jeune scénariste de 40 et quelques années, mais effectivement il a derrière lui toute une carrière de storyboarder en dessin animé. Voilà, et je pense que c'était nécessaire aussi pour lui d'avoir eu tout ce bagage. Et puis ça a été l'impulsion qui a fait que voilà, il s'est lancé seul à raconter ses propres histoires, son dessin, ses couleurs, et à être maître du début jusqu'à la fin de son propre travail.
Il a rentabilisé son passé professionnel, parce qu'il a commencé donc relativement tard à raconter ses propres histoires, mais en revanche, raconter des histoires qui étaient celles des autres, ça il savait faire, et puis il savait bien faire depuis pas mal d'années.
Oui, c'est ça. En fait, le storyboard était quelque chose qu'il adorait faire. Il travaillait très rapidement, d'ailleurs. Et il avait une facilité à retranscrire en images les mots des autres scénaristes qui étaient assez fascinantes.
Alors, Briec, assez légal, vous connaissez bien effectivement toute l'œuvre de Bruno Le Flacq. On s'intéresse maintenant à la partie bande dessinée. Armel Luminant va nous expliquer comment il en est arrivé à ce stade. Et alors là, maintenant, ça y est, on prend au début de la bande dessinée.
Alors, moi, je me souviens d'une chose. C'est la toute première fois que j'ai discuté avec Bruno, que Armel et lui m'avaient reçu en leur demeure de Pont-l'Abbé pour une interview. On était encore au vouvoiement, ça n'a pas duré longtemps. Et très rapidement, Bruno m'a dit une chose. Pour moi, la bande dessinée, c'est la liberté. Et ça disait tout, justement, c'est qu'il était vraiment maître d'œuvre total de ses propres créations, à savoir qu'il écrivait ses histoires, enfin qu'il les imaginait, qu'il les écrivait, qu'il les mettait en scène, qu'il les mettait en dessin, qu'il les mettait en musique, qu'il créait les dialogues, qu'il créait ses couleurs, hormis son premier album qui lui est en nuance de gris au bord du monde, tous les autres c'est de la couleur réalisée par Bruno. C'est-à-dire qu'il était vraiment le seul maître à bord, il avait juste après un éditeur et un imprimeur et un libraire. Parce qu'il avait vraiment cette soif de liberté après toutes ces années, comme Armel l'a expliqué, où il était pris dans une mécanique avec d'innombrables intervenants. Et donc, à l'orée des années 2000, il conçoit Au bord du monde. Et c'est assez amusant parce qu'il faut imaginer ce bonhomme qui avait extrêmement réputé dans le monde du dessin animé, mais inconnu dans le monde du 9e art de la bande dessinée, qui s'affarde, comme disent les Belges, donc son carnet à dessin et son porte-document sous le bras, se rend à Saint-Malo, rencontre un éditeur, Thomas Aragon, qu'on salue. Et Thomas Aragon, quelques jours plus tard, lui rappelle, lui dit « Banco, je te signes tes trois nouvelles qui composent donc l'album Au bord du monde, paru chez Delcourt. Dès l'année suivante, Bruno, avec plus d'ambition, fait un roman graphique plus long, Trois éclats blancs, qui, comme Armel le disait tout à l'heure, lui a valu le prix René Goscinny. Il faut savoir que c'est un des prix les plus prestigieux de la bande dessinée, qui a été conçu par Anne Goscinny, la fille du célèbre scénariste, le créateur d'Astérix, entre autres. Et c'est vrai que, pour rebondir sur ce que disait Armel tout à l'heure, j'étais au théâtre d'Angoulême lors de la remise des prix. C'est vrai qu'on s'est bien marré quand on a vu ce jeune scénariste monter sur scène. Puis, pour ceux qui connaissaient Bruno ou qui voient quelle tête il avait, ce grand bonhomme barbu, etc., il avait rien du jeune premier. Et Trois éclats blancs a été vraiment un bouquin qui a extrêmement séduit le public. Je rappelle l'histoire, c'est dans ses grandes lignes. C'est un jeune ingénieur parisien, frais et moulu de son école parisienne, qui débarque en Terre Goudaine, et il est chargé de la construction dans les années 1910 d'un phare en pleine mer. L'histoire du phare est un peu inspirée de celle de la réelle histoire de Darmen.
Oui.
Il faut savoir que ces phares en mer, pour atteindre le rocher, c'était des fois 2-3 jours dans l'année où le chantier pouvait démarrer. Donc il va s'installer pendant quasiment une décennie chez les Bigoudins, et donc il faut imaginer ce Parisien qui ne connaît rien à la Bretagne, qui débarque chez les Bigoudins. Au début, il les prend pour des ploucs, faut bien dire les choses, et puis très rapidement, il va peu à peu apprendre à connaître, puis à aimer ces habitants du bout du monde, du bord du monde, comme aurait dit Bruno. Donc vous voyez, deux premiers albums qui sont sur Terre Bigoudaine. Le troisième, il est un peu différent. C'est une après-midi d'été. C'est une fausse suite de Trois éclats blancs. Pourquoi une fausse suite? Parce qu'on retrouve dans Une après-midi d'été, c'est toujours aux éditions Delcourt, certains personnages de Trois éclats blancs. On retrouve l'ingénieur parisien et Nona. Nona, c'est un marin bigoudin pur jus. C'est le rival et en même temps l'ami de l'ingénieur. Et on les retrouve dans les tranchées de la guerre de 14. Donc ça, bah là, justement, cette année, là, ça résonne bien. Et c'est un livre qui est construit en flashback, parce que Nona est rentrée au pays, dans son port bigoudin. Il est avec Perdri, la belle Perdri, qui était à la fois amoureuse et de Nona et du Parisien. Et Nona se remémore ce qu'il a vécu, l'horreur des tranchées vécue avec l'ingénieur parisien. Et puis ensuite, Bruno, il l'avait dit dans un entretien qu'il m'avait confié. J'ai la chance d'avoir eu beaucoup d'échanges avec lui, d'avoir pu enregistrer énormément de témoignages de Bruno. Bruno ne souhaitait pas être cantonné comme le dessinateur du Pays Bigoudin. Il a voulu aller un petit peu vers d'autres choses. Et il a profité de changer d'éditeur. De chez Delcourt, il est passé chez Dargaud, tout simplement parce qu'il était fidèle à Thomas Ragon, son directeur de collection. Et il a créé Saint-Germain puis Roulé vers l'Ouest. Alors là, c'est complètement autre chose.
On est à Paris, Saint-Germain.
À Paris, dans les années 60, dans les caveaux de jazz, dans les ambiances jazzy. Et c'est la fuite éperdue d'un gars qui un peu en perdition, qui tente de retrouver, de reconquérir sa belle, son amoureuse, qui s'est barrée, faut dire les choses. Mais bon, Bruno n'a pas pu s'empêcher de finir l'album en bord de mer. Cette fois-là, on n'est pas en Pays Bigoudin, mais on est sur la côte nord, côté de Dinard, Perros-Guiret.
Ah bah c'est sûr, quand on part de Paris et qu'on roule vers l'ouest, à un moment ou à un autre, on finit quand même par se retrouver en Bretagne.
Ensuite, il a fait une trahison épouvantable au Pays Bigoudin, parce qu'il a osé faire un album qui se passe à Pont-Aven et à Concarneau, avec Paysage au chien rouge, où là, c'est une fantaisie extraordinaire, où il revisite les séjours de Gauguin du côté du Sud Finistère chez nos amis de Concarneau. C'est un petit bijou, malheureusement indisponible pour le moment, mais il est évident que cet album reparaîtra un jour. Et puis ensuite, alors là c'est carrément le très grand voyage, sa première et dernière série, Chronique Outre-mer. Il serait pas content si je parle de série, parce qu'il considérait que c'était une seule et même histoire, mais qui a été saucissonnée, dit Bruno, en trois tomes. Chronique Outre-mer, c'est un voyage incroyable qui part du sud de la France pour aller jusqu'au Mexique. Alors c'est une histoire incroyable de trafic d'armes par rapport à d'odieux personnages. Il y a un commandant qui est complètement cocaïnomane et qui se remémore son amour disparu. Tout ça sur fond de guerre mexicaine et de Première Guerre mondiale. C'est à la fois cocasse, à la fois très cru, à la fois très dur, mais en tout cas c'est une beauté extraordinaire, et beaucoup de personnes considèrent qu'avec cette trilogie, Chronique Outre-mer, parue chez Dargaud, Le Floch est l'héritier spirituel d'Hugo Pratt, tant c'est flagrant. Et j'ai le témoignage de Sylvina Pratt, la fille d'Hugo Pratt, donc le créateur de Corto Maltese, qui m'a dit s'il y avait un homme qui aurait pu reprendre l'excès de mon père, c'est Bruno Le Floch.
Est-ce que, là, on évoque le voyage. Ça revenait régulièrement dans son discours, le voyage et la mer aussi. Parce qu'on a évoqué, on parlait tout à l'heure du pays bigoudin, mais on évoquait la culture, on évoquait les gens, on évoquait les habitants, les habitantes. Le pays bigoudin, il est longé, il est bordé par la mer. Est-ce que la mer aussi est importante pour lui? Ça faisait partie de son univers?
La mer était primordiale, il la connaissait bien. C'est vrai que plus jeune, il avait fréquenté l'école de voile des Glénans. Il aimait la mer, il aimait les marins. Et il a tenu à partir en campagne, en fait, sur un chalutier, donc pour une mission hauturière. Il est parti deux fois en mer d'Irlande, et ça, c'est quelque chose qu'il a énormément marqué. Je pense que on ne peut pas parler des marins et de leur quotidien si on n'a pas partagé. Et je pense que en la matière, Bruno avait une connaissance parfaite de ce qu'était la vie des marins à bord, et donc de la mer et de ses écueils et de ses dangers.
Chose qui avait dû, univers qui avait dû le passionner dès son enfance, puisqu'on rappelle qu'il a passé son enfance, sa jeunesse à Alloctudy.
Ses parents travaillaient dans le monde maritime, dans le milieu de, il y avait des marins pêcheurs chez lui tous les jours. Il embarquait, il causait avec les vieux pêcheurs. On fait un clin d'œil à notre amie Anne-Marie du café du port de Alloctudy, parce que c'est, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment, voilà, le repère de, le rendez-vous du monde de la mer de Bibigoudin. Et oui, Bruno connaissait ça sur le bout des doigts. Il n'y avait qu'à le voir dessiner un bateau, mais il n'avait pas besoin de documentation. Il vous le faisait parfaitement. Le sens des voiles, le sens du vent, il le connaissait par cœur. C'était en lui.
Oui, effectivement, les gens qui naviguent, en observant les dessins maritimes de Bruno Le Floch, devinent que c'est un gars qui savait, qui connaissait effectivement la mer. Pas d'erreur. Contrairement à ce que certains dessinateurs, parfois d'autres, on va pas citer de nom, mais parfois font des erreurs, font de très jolis dessins, de très très beaux dessins, mais ça va pas, le sens du vent va pas avec la position de la voile, avec la position de la vague. Ça, c'est connu. Tous les navigateurs peuvent le dire. Avec Bruno Le Floch, là, c'était pas du tout le souci.
Pas du tout le cas.
La mer et toute sa dimension dramatique, en fait. Je pense que c'est ça qui l'inspirait, parce que c'est pas si vieux que ça. Le Bugalet Braise, je pense que on vient de commémorer les 10 ans de la disparition de ces marins. Heureusement, il y en a de moins en moins. Mais l'enfance de Bruno a été jalonnée de drames de ce type de marins qui partaient et qui ne revenaient pas. Et donc toute cette dimension dramatique, c'est quelque chose aussi qu'il avait en lui et qu'il pouvait retranscrire d'une manière absolument magnifique.
On continue à parler pendant quelques minutes encore de Bruno Le Floch et de ce qu'il nous a laissé dans quelques minutes.
16h-18h, Braise au pluriel, Michel Pagès.
Capercaillie cet après-midi sur France Bleu Brésil. Une mode à croquer, c'est Bruno Le Floch et son Pays Bigoudin, livre réalisé par Briac Castel-Legal et Armel Le Mineur, tous deux présents en studio cet après-midi sur France Bleu Brésil. Livre sorti aux éditions Locus Solus. Le patron, à tous les sens du terme, de Locus Solus s'appelle Florent Patron, justement, vient de nous rejoindre. Bonjour Florent.
Bonjour.
Parce qu'on a un anniversaire à fêter, hein, Locus Solus. On est à pratiquement à son premier anniversaire.
Oui, c'est ça.
À quelques jours près. On en reparlera un petit peu plus tard, dans quelques minutes. Mais auparavant, j'aimerais bien, avec Briac et Armel, que vous nous expliquiez donc d'où viennent toutes ces images qui sont dans le livre. Comment vous avez travaillé tous les deux? Parce que l'idée de faire un hommage au travail de Bruno et au Pays Bigoudin, on a compris. Mais après, il faut bosser, il faut le faire, le livre. Alors comment vous avez travaillé tous les deux?
Alors, Bruno, un petit peu tête en l'air, est parti sans ranger son atelier. Donc c'est vrai que Briac et moi nous sommes retrouvés à la tête d'un maestrom, comme Briac.
On peut dire ça comme ça.
Voilà. Il a fallu qu'on commence à effectuer ce qu'on appelle le récollement et on est allé de surprise en surprise. Et on n'a pas fini. Je pense qu'on a encore énormément de trésors à découvrir. Mais c'est vrai qu'il a fallu extraire des planches que l'on a découvertes, Briac et moi, en faisant des tris d'originaux, de crayonnés, d'ancrage. On a découvert tout un tas de choses inédites. Et ensuite, je les ai confiées à Briac pour qu'il puisse voir dans quelle manière il pouvait en tirer parti, afin de bien illustrer notre propos dans le livre.
Dans le livre ou dans des expositions. Je reviens à la genèse du livre, dont on en a parlé tout à l'heure au début. C'est voilà Florent Patron qui est venu qui nous a sollicité parce qu'il y avait ces personnages en pied qu'on présente dans le livre où on peut interchanger les parties du costume selon les époques, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et peu à peu, Armel comme moi, on a expliqué à Florent que il y a des crobards préparatoires, il y a des étapes préparatoires, il y a des croquis de recherche. C'est vrai qu'on a mis la main sur des carnets de croquis extraordinaires, truffés de documents. Des fois, c'est des tout petits dessins. Des fois, c'est des dessins qui font 3 cm de haut, qu'on reproduit en beaucoup plus grand dans l'ouvrage Une mode à croquer. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, que ce bouquin, au début, c'était une préface qui est devenue un livre. Parce que Florent a vu la richesse qu'il y avait. On arrive, Florent me le confirmera, je crois qu'on est à 105 ou 110 illustrations dans
oui,
l'ouvrage.
C'est ça, bref.
Donc, c'est vrai qu'il y a une matière incroyable. Et on a la chance, dans notre malheur, que Bruno ait laissé un atelier en état. À savoir que, et en plus, il était relativement bordélique, n'ayons pas peur des mots.
Oui.
Et donc, notre travail d'inventaire et de récollement, ça rejoint un travail d'archéologue, parce qu'on est par strates. Tout en haut.
Les aventures d'Armel de Briac, archéologue des temps modernes.
Absolument, dans l'atelier du Quai Saint-Laurent à Pont-l'Abbé, c'était absolument incroyable, parce qu'on avait les derniers crobards qui dataient donc de l'automne 2012, sur un projet terminé mais qui n'est pas encore publié. On soulève quelques pages, on arrive à Chronique Outre-mer, tome 3, paru en août 2012, et puis vous descendez comme ça et tout en bas, touchant le bois de la table, vous avez Au bord du monde, son tout premier album. Donc des strates archéologiques, et c'est vrai qu'à chaque fois, faut pas oublier que le travail de bande dessinée, ça se fait pas comme ça. C'est pas une planche, un original. C'est des crobards préparatoires, c'est des esquisses, c'est des retouches, c'est des dénis du créateur qui se dit finalement non, c'est pas bon, je change complètement la composition de ma page. Donc on a plein d'étapes, il y a plein de strates, il y a le storyboard, il y a les crobards de recherche, il y a la version au crayon, il y a la version ancrée, il y a la version ensuite numérisée, il y a la mise en couleur. Et donc parmi tout cela, il y avait beaucoup de choses, des travaux préparatoires Là, on n'est pas sur un livre qui présente toute l'œuvre de Bruno, c'est juste une toute petite partie, c'est les aspects du costume Bigoudin, mais et de l'univers Bigoudin de Bruno, les ports, les bistrots, les bateaux, les ambiances, etc. Mais il y a également des ce que j'appelle les dessins libres, des fantaisies de Bruno Le Floch, parce que de temps en temps, il avait le droit de dessiner aussi pour son plaisir, et donc très souvent, c'était sa belle et jolie perdrix qui revenait sous son crayon, et on a trouvé des dessins fabuleux, on a trouvé des portraits de perdrix au crayon, ancré. illustrées ou en couleur, des choses incroyables.
Donc là, j'imagine, vous avez dû être obligé de faire une sélection, parce que vu tout ce que vous avez retrouvé dans l'atelier Bruno Le Floch, il n'y a qu'une petite partie qui est présente
dans ce
livre.
Oui, il y a pléthore, effectivement. Je vais juste rebondir sur ce que dit Briec, que de temps en temps, il ne dessinait pas uniquement pour son plaisir. Je pense qu'il dessinait tout le temps et uniquement pour son plaisir. Voilà, je pense que le dessin...
Pardon, oui.
Voilà, mais ça n'avait rien d'un travail pour lui. C'était son moyen d'existence.
Et pour rebondir également, oui, il a fallu choisir...
Tout le monde rebondit là-dedans, on dirait un trampoline, cette émission.
Mais surtout, il a fallu qu'on arrête notre éditeur. Florent Patron, parce que je tiens à signaler qu'au cours de création du livre, Florent Patron et son équipe, je pense à Sandrine notamment, à Sandrine Pondaven, ils ont augmenté la pagination du livre, parce qu'ils se sont dit, mais il y a tellement de choses comme ça, on veut les reproduire, c'est extraordinaire.
De toute façon, si je peux me permettre d'intervenir, ce n'est qu'une mise en bouche de ce qui pourrait être fait, en gros... Et si le livre a été fait aussi rapidement, c'est parce qu'il y avait cette petite exposition à la clé qui se déroulait au musée du Goudin à la fin du mois de décembre 2013. Là, peut-être que d'ailleurs elle va continuer un petit peu à bouger cette exposition après. Mais voilà, c'était quelque chose, j'allais dire, d'assez rapidement fait pour inviter les lecteurs à se poser des questions, à aller plus loin. Et puis c'était évidemment un an après sa disparition. Bref, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire autour de l'atelier ou des sources de Bruno. Et je pense que Armel et Briec n'en ont pas fini, évidemment, d'exhumer des choses intéressantes.
Tout à fait. Là, vous avez vraiment... C'est un tout petit bout de l'iceberg, le Floch.
Donc, il y a des choses à venir. Mais pour le moment, on n'en dira pas davantage. Par contre, j'aimerais bien qu'on dise davantage sur Locus Solus. Donc, ça a commencé il y a un an, Florent Patron. C'était un pari fou, on peut le dire.
Une
nouvelle maison d'édition en Bretagne. Et le pari, a priori, on croise des doigts, il semble plutôt réussi.
Merci beaucoup. Un an après les premiers livres parus, effectivement, début mars l'année dernière, pour le Salon du Livre de Paris, qui est un événement auquel tout le monde se plie, plus ou moins. Paraissaient nos premiers livres. On en avait 6, je crois, l'année dernière en mars. On en a fait une trentaine depuis. Et puis le tout dernier paru, effectivement, c'est le Bruno Le Floch, qui était en librairie, donc décembre et puis janvier, après un peu plus largement. Ainsi qu'un petit livre sur le Bugalet de Braise, d'ailleurs, aussi, puisque Armel mentionnait cet événement. Il y a un livre anniversaire sur le Bugalet de Braise qui est sorti aussi début janvier. Donc voilà, une trentaine d'ouvrages plus tard qui sont plutôt des réussites, oui, je crois, je l'espère. En tout cas, nous, on a mis beaucoup de cœur à les faire. Et puis, on a eu de la chance aussi d'avoir des partenaires intéressants, ceux qui sont à côté de moi, ici, autour de cette table. Et puis, d'autres institutions en Bretagne, des musées, comme le Musée des Beaux-Arts de Quimper, ou celui de Brest, de Vannes, le Port Musée de Douarnenez, etc. Bref, beaucoup de gens qui se sont rapprochés de nous pour réaliser des ouvrages plutôt illustrés, plutôt divers, plutôt qui concernaient la Bretagne, effectivement, puisque c'est des sujets qu'on aime bien, mais qu'on a réussi aussi, j'espère, à diffuser un peu plus largement.
L'avenir, j'imagine, est radieux, on va dire, mais alors quels sont les projets sur lesquels travaille la maison d'édition?
L'avenir est laborieux, surtout. Parce que, voilà,
ça rime avec radieux.
Exactement. Alors, voilà, parce que c'est beaucoup de travail, tout ça, vous imaginez bien. On est une petite équipe, effectivement, même si elle s'est agrandie là récemment. On vient d'embaucher une jeune collaboratrice. Donc nous sommes trois, on va dire presque quatre, avec Stéphane Hervé, que je mentionne toujours. Il est notre associé et puis il collabore à beaucoup d'ouvrages, même s'il est indépendant de son côté à Carré. Bref, c'est laborieux parce que, oui, beaucoup de livres sont en chantier et que pour le Salon du Livre de Paris, là, justement, puis le Salon Livre et Mer, puis d'autres événements étonnants voyageurs, etc., qui émaillent la vie littéraire en Bretagne régulièrement, eh bien, nous avons encore une trentaine de parutions à peu près au compteur pour l'année 2014.
Donc, effectivement, beaucoup de pain sur la planche.
Voilà, et ça va commencer très vite, là, avec une salve de quatre grands formats, si je peux me permettre de les citer. Il s'agit de deux livres d'art, l'un sur Paul Sérusier, l'autre sur un artiste bien plus vivant que Paul Sérusier. Il s'agit de Claude Huard, qui exposera, il y aura une belle rétrospective de ses œuvres aux Ursulines à Quimperlé le 18 avril. Et donc, on fait une monographie sur ce peintre vraiment intéressant, avec un texte de Ghislaine Huon. Donc grand format, 200 œuvres représentées, toute sa vie, son œuvre, et puis aussi tout son passé assez amusant et intéressant, en tout cas culturellement, autour de Glenmore, Graal. On retrouve des grandes figures comme ça qui ont accompagné Huard à Pont-Aven dans les années 70 et 80 même. Et puis l'autre livre d'art donc importante, effectivement, c'est une énorme monographie sur Paul Serruzier, réalisée avec la ville de Châteauneuf-du-Fou, puisque là-bas, Serruzier a vécu longtemps.
Mais sa maison subsiste d'ailleurs.
Voilà, il a laissé des choses et que la ville a souhaité s'associer à un beau livre qui marquerait pour les temps à venir la bibliographie sur Serruzier. Donc là aussi, beaucoup d'œuvres reproduites, beaucoup de musées sollicités jusqu'au Japon, jusqu'en Pologne. Et celui-ci, donc voilà, et tout ça est sous presse, ainsi qu'un livre de photographie sur l'Irlande avec Bernard Béroux, auteur bigoudin justement, et puis un photographe Didier Wex. Très beau livre sur l'Irlande qu'on réalise en partenariat avec la Brittany Ferries, aussi avec l'Office de tourisme irlandais à Paris. Et puis un quatrième grand format sur la grande dame de la mer qui était Anita Conti. Voilà, tout en photographie et documents d'archives, puisque ça s'intitule même Portrait d'archives, et que là ce sont les archives municipales de Lorient qui possèdent le fond, qui ont ouvert justement donc cette matière énorme, des dizaines de milliers de documents à Clotilde Letton, l'auteur, qui en a fait un choix, un tri, qui a présenté ça de manière harmonieuse pour montrer toutes les facettes de cette grande dame, qui n'est pas que une photographe ou une océanographe évidemment de renom, et qui est aussi voilà une grande femme sous plein d'aspects, un grand écrivain aussi.
Merci à tous les trois d'avoir passé un moment cet après-midi avec nous. Merci à Armel Lemineur et à Briac Castel-Legal, donc les auteurs de ce livre Une mode à croquer, Bruno Lefloc et son pays Bugelin, sorti aux éditions Locus Solus, dont le chef Florent Patron était avec nous lui aussi. À une prochaine fois.
Avec plaisir. Merci.